VOA Afrique, le monde aujourd'hui, à Washington.
Bonsoir, bienvenue dans cette édition du 18 février 2021. Abdourahman Dia à la présentation, voici les titres. Une nouvelle attaque dans le nord du Burkina a fait 8 morts ce jeudi. Drame également en Ouganda où 6 enfants ont été tués dans l'explosion d'une grenade avec laquelle ils jouaient. Un ressortissant nigérian condamné à 10 ans de prison aux États-Unis pour avoir arnaqué ses victimes sur Internet à hauteur de 11 millions de dollars. Ici aux États-Unis, les démocrates dévoilent un ambitieux plan de régularisation de quelques 11 millions d'immigrants clandestins. Près de 7 mois après avoir décollé, le véhicule de la NASA, nommé Perseverance, doit se poser ce jeudi sur la planète Mars. Également dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et les sports. Et tout d'abord, le journal. Au Burkina Faso, au moins 8 civils ont été tués ce jeudi dans le nord, près de la frontière du Niger, dans une attaque attribuée au groupe djihadiste qui opère régulièrement dans cette zone. Des individus armés ont intercepté ce jeudi un car de transport en commun qui reliait Markoye à Dorbel, au Niger voisin. Au moins 8 personnes ont été tuées et autant de blessés ont été enregistrés, a confirmé un élu local. Le ministre ivoirien de la Réconciliation nationale, Kwadio Konan-Bertin, alias Kakabé, a annoncé ce jeudi sa prochaine rencontre à Bruxelles avec Laurent Gbagbo pour parler des modalités de son retour en Côte d'Ivoire. Il n'a pas précisé la date de la rencontre, mais, dit-il, le principe est acquis avec l'accord du président Alassane Ouattara. Le ministre a également prévu de rencontrer Charles Blé Goudé, acquitté par la Cour pénale internationale, qui attend lui aussi de pouvoir entrer dans son pays. Au Nigeria, les forces de sécurité continuent de traquer ce jeudi les hommes armés qui ont enlevé la veille plus de 40 personnes, dont 27 élèves, dans un pensionnat du centre du pays. Le porte-parole du gouvernement local, Mohamed Sani Idriss, déclare que les bandits sont sous pression. Nous espérons que les élèves seront très vite secourus. Cet enlèvement d'élèves, d'enseignants et de membres de leur famille à Kagara, dans l'état du Niger, est le dernier d'une série d'enlèvements perpétrés dans le centre et le nord-ouest du Nigeria par des groupes criminels appelés localement bandits. Un ressortissant nigérian a été condamné hier à 10 ans de prison pour son implication dans une fraude par intrusion informatisée qui a causé environ 11 millions de dollars de pertes à ses victimes. Le point avec Michel Joseph.
Par le biais de subterfuges et d'usurpation d'identité, Obinwane Okeke a mené un programme de piratage informatique et d'emails commerciaux sur plusieurs années à l'échelle mondiale, qui a causé des pertes de 11 millions de dollars à ses victimes, a déclaré Raj Parekh, procureur par intérim dans l'Est de la Virginie. Obinwane Okeke, 33 ans, dirigeait un groupe de sociétés connu sous le nom d'Invictus Group, basé au Nigeria et ailleurs. Entre 2015 et 2019 environ, Okeke et d'autres complices ont mené diverses fraudes informatiques en compilant les références de centaines de victimes. Ils ont ciblé plusieurs sociétés dont Unatrack Holding Limited, le bureau de vente d'équipements lourds de Caterpillar. Ils ont envoyé des fausses factures et des demandes frauduleuses de virements bancaires qui leur ont permis d'obtenir illégalement 11 millions de dollars. Après une longue enquête du FBI, un tribunal de Norfolk en Virginie a condamné Okeke à 10 ans de prison.
En Ouganda, 6 enfants ont été tués, 5 autres blessés dans le nord-ouest, dans l'explosion d'un engin explosif trouvé dans la nature et avec lequel ils jouaient. Le point avec Yacouba Traogo.
Les enfants jouaient dans la nature mardi après-midi lorsqu'ils ont découvert un objet qui a explosé alors qu'ils le manipulaient, a déclaré Joséphine Angoussia, porte-parole de la police. Elle a ajouté que les premiers éléments de l'enquête laissent penser à une grenade abandonnée durant la période de l'armée de résistance du Seigneur qui a sévi dans la région du West Nile et en particulier à Adjumani. Cette ville a été le théâtre d'un accident similaire il y a moins de 2 semaines. 2 personnes ont été tuées en manipulant de vieilles munitions. Il n'est pas rare de trouver des engins explosifs abandonnés dans cette partie du pays où les forces gouvernementales ont affronté dans les années 1990 les rebelles du front de la rive ouest du Nil et ceux de la LRA qui n'a été chassée du nord de l'Ouganda qu'en 2006.
La moitié des 59 millions de Sud-Africains ont potentiellement été contaminés par le COVID-19 selon deux études qui estiment que plusieurs milliers de décès dus au virus n'apparaissent pas dans les statistiques officielles. L'Afrique du Sud, qui a mené une vaste campagne de tests dès la première vague, a enregistré plus de 140 000 décès supplémentaires depuis mai 2020, selon le Conseil sud-africain de la recherche médicale. Le Zimbabwe a injecté ce jeudi ses premiers vaccins trois jours après l'arrivée de 200 000 doses Sinopharm depuis la Chine. Le ministre de la Santé, Constantino Chiwenga, a été le premier à se faire vacciner. Le ministre, qui est également vice-président du pays, a affirmé que toutes les étapes scientifiques nécessaires ont été menées pour s'assurer de l'efficacité de ce vaccin, revendiqué à 79% par ses producteurs.
VOA Afrique, à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Maison-Blanche dévoile aujourd'hui le projet de loi du président Joe Biden sur l'immigration. Ce texte, qui devra être mis sur les rails législatifs, vise à ouvrir la voie à la naturalisation de 11 millions d'immigrants en situation irrégulière. Le point avec Eric Manerakiza.
Deux élus démocrates, Nida Sanchez et Bob Menendez, vont présenter l'initiative respectivement devant le Sénat et la Chambre des représentants. Le projet de loi prévoit d'ouvrir la voie vers la citoyenneté américaine à près de 11 millions de personnes en situation irrégulière qui peuvent prouver qu'ils se trouvaient aux États-Unis le 1er janvier 2021. La réforme va également profiter aux Dreamers, ces quelques 700 000 jeunes arrivés clandestinement aux États-Unis pendant leur enfance. Les personnes jouissant du statut de protection temporaire qui empêche la déportation des citoyens de pays affectés par les désastres naturels ou les conflits et les travailleurs agricoles qui peuvent prouver qu'ils sont employés aux États-Unis pourront également obtenir un titre de résidence permanente. Dès cette semaine, l'administration Biden va également mettre un terme à la politique migratoire de Donald Trump qui consistait à renvoyer les demandeurs d'asile au Mexique pendant l'examen de leur dossier.
Environ 7 mois après avoir décollé, le dernier véhicule de la NASA Perseverance devrait atterrir ce jeudi sur la planète Mars. Le lieu choisi, le cratère de Jezero, est le site d'atterrissage le plus dangereux jamais tenté. Les précisions de John Lindon.
L'appareil, nommé Perseverance, a commencé son voyage de plus de 292 millions de kilomètres le 30 juillet. Il devrait se poser sur la planète Mars ce jeudi vers 20h55 GMT. Le rover va explorer le cratère de G0, site d'un ancien lac qui existait il y a près de 4 milliards d'années, et rechercher des microfossiles dans les roches et le sol. Des missions de suivi renverront sur Terre des échantillons collectés d'ici 2030. Pour ce faire, il faudrait d'abord réussir les 7 minutes cruciales où le rover doit passer d'une vitesse de 20 km/h à zéro pour se poser sur la planète Mars sans aucune aide ni intervention des équipes de la NASA sur Terre. À cause de ces décalages, si l'appareil se pose sur Mars, bien sûr la NASA va confirmer, mais l'événement en réalité aurait déjà eu lieu plusieurs minutes auparavant. C'est encore là une autre merveille de la science.
Les employés du Vatican refusant d'être vaccinés contre le COVID-19 risquent désormais des sanctions allant jusqu'au licenciement selon un décret rendu public ce jeudi par l'État de la Cité du Vatican qui emploie environ 5000 personnes. Le Vatican a débuté en janvier une campagne de vaccination gratuite pour tous ses employés. Le pape François et le pape émérite Benoît XVI ont déjà été vaccinés. La Norvège a annoncé ce jeudi qu'elle suspendait sa coopération interétatique avec la Birmanie suite au coup d'état militaire du 1er février. Pour l'année en cours, la Norvège avait budgétisé 6,5 millions d'euros pour contribuer à renforcer l'expertise des institutions publiques birmanes dans des domaines comme les énergies renouvelables, le climat et l'environnement ou encore la protection des océans. L'aide publique à la population birmane via les agences de l'ONU et les ONG est en revanche maintenue, précise le ministère des Affaires étrangères. La justice libanaise a récusé jeudi le juge d'instruction chargé de l'enquête sur l'explosion au port de Beyrouth suite à une demande en ce sens présentée par deux anciens ministres inculpés. Ils l'accusent d'avoir violé la Constitution et des dispositions sur leur immunité. L'explosion, provoquée le 4 août par une énorme quantité de nitrate d'ammonium stockée sans mesure de précaution de l'aveu même des autorités, avait fait plus de 200 morts, 6500 blessés et dévasté des quartiers entiers de la capitale. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com.
L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par John Lennon.
Le Sénégalais Macar Diop, nouveau patron de la Société financière internationale. Selon Jeunafrique, l'actuel vice-président de la Banque mondiale pour les infrastructures a été choisi pour succéder au Français Philippe Le Houerou à la tête de l'institution internationale. Sa candidature a été retenue par le comité de sélection présidé par l'Indonésienne Marie Panchetou. La Société financière internationale est une filiale de la Banque mondiale dédiée au secteur privé. Un accord de prêt d'un montant de 300 millions de dollars de l'Association internationale de développement, filiale du groupe de la Banque mondiale, a été approuvé en faveur de la Côte d'Ivoire. Ces fonds devraient servir à soutenir la riposte contre le COVID-19 et la relance du secteur privé. Une partie des fonds devrait aussi servir au renforcement de la transparence dans la gestion des finances publiques. L'Agence japonaise de coopération internationale et le Fonds africain de développement ont conclu jeudi un accord de près de 668 millions de dollars pour soutenir les pays les plus pauvres d'Afrique. Au total, 32 États contribuent au Fonds africain de développement et ses ressources sont reconstituées tous les 3 ans.
Présent la page des sports avec Yacouba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le Cameroun est presque en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations des moins de 20 ans après sa deuxième victoire 1-0 face à l'Ouganda hier. Battu en ouverture, le pays hôte, la Mauritanie, s'est relancé en disposant du Mozambique 2-0. Le groupe B fait présentement sa deuxième sortie ce soir. La Tunisie fait face à la Namibie et le Burkina Faso, la République centrafricaine. En Europe, en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le FC Porto a battu hier 2-1 la Juventus de Turin de Cristiano Ronaldo. Le Malien Moussa Mariga de Porto a inscrit le second but des Portugais. Dans l'autre quart de finale aller, l'incontournable Erling Haaland a porté le Borussia Dortmund d'un doublé clinique à Séville. Score final 3-2 pour les Allemands. En Angleterre, Whitford a contesté auprès de la FIFA le recrutement en juillet dernier par l'Olympique de Marseille du milieu défensif Pape Gueye, qui s'était au préalable engagé auprès du club anglais, a indiqué l'instance mondiale. La démarche de Whitford vise à la fois le club marseillais et le joueur de 22 ans recruté pour 4 ans par l'OM alors qu'il était en fin de contrat au Havre en Ligue 2 française, son club formateur. L'ancien international français des U18 et U19 a disputé une quarantaine de matchs ces deux dernières saisons avec le club normand. Fin avril 2020, Whitford a annoncé sa signature pour 5 ans à partir du 1er juillet suivant, mais Gueye a dans l'intervalle rompu le contrat unilatéralement pour des vices de forme. Tennis, Novak Djokovic a mis fin 6-3, 6-4, 6-2 à la folle aventure du qualifié russe Aslan Karatsev. Premier joueur dans l'ère Open à s'inviter dans le dernier carré dès son premier Grand Chelem durant cette Open d'Australie. Demain, la deuxième demi-finale homme mettra aux prises le grec Stefanos Tsitsipas qui a réussi un exploit face à Rafael Nadal en quart de finale et le russe Daniil Medvedev. Chez les dames, Naomi Osaka a une nouvelle fois brisé la quête de Serena Williams d'un 24e sacre historique en Grand Chelem en demi-finale sur la Road Laver Arena, de nouveau ouverte au public. La cadette des sœurs Williams s'est inclinée 6-3, 6-4 en 1h15. La japonaise visera samedi un 4e trophée majeur face à la nouvelle venue américaine Jennifer Brady, qui a battu la Tchèque Karolina Muchova 6-4, 3-6, 6-4. Ici, en NBA, le Utah Jazz a signé contre les Clippers 114-96, une 9e victoire de rang. Philadelphie du Camerounais Joel Embiid, 31 points, 11 rebonds et 9 passes décisives, a battu Houston 118-113. Portland a pris le dessus sur la nouvelle Nouvelle-Orléans 126-124. Chicago a battu Détroit 105-102. Les Golden State Warriors sont allés jusqu'à la prolongation pour finalement s'imposer 120-112 contre le Miami Heat.
Merci à Kouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Abdourahmane Diab, toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Fin ce jeudi de la première phase du procès Yekatom et Ngaïsona devant la Cour pénale internationale à La Haye. Les deux anciens chefs de la milice anti-Balaka sont jugés pour crimes de guerre et crimes contre l'humanité commis en Centrafrique entre 2013 et 2014. C'est un procès très suivi à Bangui. On fait le point avec notre correspondant sur place, Freeman Sipila.
Ouvert le 16 février avec les déclarations liminaires de l'accusation, la première phase de ce procès a pris fin ce jeudi avec la déclaration des avocats de Patrice Edouard Ngaïsona. La défense de M. Ngaïsona a rejeté en bloc les accusations du bureau du procureur, estimant que son client a tiré sa popularité du football et non en tant que chef d'une milice armée. Même si Patrice Edouard Ngaïsona et Alfred Yekatom Rambo ont plaidé non coupables, les victimes voient en l'ouverture de ce procès un signe d'espoir. Aïcha Baba, une des victimes et présidente de l'association des femmes musulmanes actives pour le développement, a assisté à l'ouverture par visioconférence dans la salle d'audience de la Cour pénale spéciale à Bangui.
Vraiment, c'est une grande satisfaction pour nous, les victimes, parce que nous avons soif de la justice. Il y a longtemps que nous nous sommes en train d'entendre pour que la justice soit faite pour nous, les victimes. S'il y a la justice, je crois qu'aujourd'hui nous aurons la paix. Après la paix, c'est le développement. Donc, sans justice, nous ne pouvons rien faire.
Pour la plateforme nationale des victimes, le compte rendu du procès aux autres victimes rendra espoir à celles qui n'avaient plus confiance en la justice. Francine Evodi Demadé, coordonnatrice nationale de la dite plateforme.
Dans nos associations respectives, les membres sont découragés. Des fois, ils disent que mais quelle est cette association-là? On n'entend rien, il n'y a pas de procédure, tout ça là. Mais à travers cette participation à l'ouverture de ce procès-là, nous allons revenir dans nos associations respectives pour leur dire que la justice a commencé à faire son travail, mais nous sollicitons aussi l'appui auprès des partenaires.
Dans le lot des réactions, Human Rights Watch estime pour sa part que l'ouverture de ce procès est un pas important vers la justice pour les victimes des crimes commis dans le cadre des conflits éclatés en 2012. Elise Kepler, directrice adjointe du programme Justice internationale de Human Rights Watch.
C'est la première fois que le CPI a un procès avec les gens du milice anti-Balaka et ça c'est un grand pas pour la justice et aussi pour les victimes qui ont souffert pendant le conflit. C'est un espoir pour le public d'avoir la justice. Et ce n'est pas suffisant, mais c'est un bon commencement d'avoir plus de procès pour lutter contre l'impunité.
C'est le même sentiment à la représentation de l'Union européenne en Centrafrique. L'ambassadrice Samuela Isopi a elle aussi participé à l'ouverture du procès par visioconférence.
J'étais très ravie hier de pouvoir participer à ce moment très symbolique en présence de représentants du gouvernement, mais surtout des représentants et des associations des victimes. Vous le savez, l'Union européenne est un partenaire clé de la justice centrafricaine. Nous sommes persuadés que la justice doit faire partie et doit jouer un rôle majeur dans la solution de la crise centrafricaine.
Freeman Sipila, Bangui, pour VOA Afrique.
Vous êtes sur VOA Afrique, 24 heures sur 24 en République centrafricaine, à Bangui, sur le 101.7 FM.
Au Cameroun, des centaines de personnes ont manifesté à Yaoundé, la capitale, pour protester contre les meurtres de trois chefs de village par des rebelles présumés. Les autorités accusent les séparatistes d'avoir tué ces chefs traditionnels qui auraient refusé de leur payer des impôts. Le reportage de Moki Edwin Kinzeka à Yaoundé et c'est un récit de Lionel Gaïma.
Centaines de Camerounais en deuil ont manifesté contre le meurtre samedi des trois chefs de village par des rebelles présumés. La plupart des manifestants sont originaires de l'Ebialem, dans le sud-ouest anglophone du Cameroun, où ces chefs traditionnels ont été assassinés.
Le ministre délégué chargé de la planification au ministère de l'économie, Paul Tassong, est lui-même originaire de l'Ebialem. Il a accusé les rebelles séparatistes d'avoir tué les chefs Fouela Sowe Peter, Fomin Benedict et Simon Forzi.
Ils étaient accusés d'avoir refusé de remettre le produit de la vente de leur cacao pour la saison 2020-2021. De plus, l'un d'eux a été accusé de promouvoir l'éducation dans le village. Nous disons non à ces actes parce qu'un mouvement sécessionniste ne devrait pas empêcher les enfants d'aller à l'école. Nous disons non car un mouvement séparatiste ne doit pas confisquer les fruits du labeur de nos citoyens.
L'armée camerounaise a confirmé que les rebelles ont tué les trois chefs et dit avoir déployé les troupes pour libérer d'autres personnes enlevées samedi par des rebelles. Un porte-parole militaire n'a pas donné plus de détails. Jean au téléphone, Mungabo Ekema William est le plus haut fonctionnaire à l'Ebialem.
Groupe de terroristes commandé par Oliver Lekiaka, alias Fille Machal, sont allés dans un village qu'on appelle Eswata. Ils ont enlevé certaines personnes, y compris certains chefs de village. Ils les ont amenés dans un marché et les ont exécutés sommairement. Ils ont jeté les corps dans une rivière qui sépare Coupé Manenguba et l'Ebialem.
Les séparatistes sur les réseaux sociaux ont nié être responsables de ces meurtres et ont accusé le gouvernement d'être derrière ces tueries pour ternir l'image des rebelles. Lekiaka est le chef des séparatistes qui se font appeler les Dragons Rouges. Le gouvernement les accuse d'avoir tué ou mutilé des centaines de personnes et incendié de nombreuses écoles et bâtiments publics. En juillet, les autorités ont accusé les Dragons Rouges d'avoir enlevé au moins 63 élèves qui n'avaient pas respecté leur demande de fermeture des écoles. Le gouverneur de la région sud-ouest, Bernard Okaliabilai, a déclaré que l'armée va traquer les rebelles et libérer tous ceux qui ont été enlevés samedi.
Nous demandons aux populations de l'observer pour que jamais pareil événement ne se reproduise. Parce que verser le sang, c'est inadmissible, intolérable, c'est du jamais vu.
Les autorités affirment que depuis que le conflit séparatiste a éclaté en 2017, des centaines de chefs traditionnels ont fui leur village et que les rebelles ont enlevé et abattu des dizaines de chefs traditionnels accusés de collaborer avec le gouvernement central. Selon les Nations Unies, depuis le début de ce conflit, au moins 3000 personnes ont été tuées et 550 000 déplacées dans les zones anglophones du Cameroun.
Parlons à présent de cette activité sportive traditionnelle au Nigeria. Il s'agit de la boxe d'Ambé. Ce sport inhabituel réunit plusieurs dizaines de lutteurs chaque week-end à Abuja. Le reportage de Gilbert Tamba.
Tam Tam et Chim pour accompagner les lutteurs de la boxe d'épée, une ancienne pratique sportive populaire entre Hausa du nord du Nigeria. Le jeu brutal d'une durée de 3 tours a pour seul but de battre un adversaire dans une soumission totale. Ils étaient plusieurs dizaines de jeunes à venir s'affronter sous les applaudissements d'une foule nombreuse dans un petit terrain construit à cet effet. Ce jeune est l'un des lutteurs. Il est sorti vainqueur de la compétition d'aujourd'hui.
Mon vrai nom c'est Nafiu Abdoulaye et mon surnom de boxeur c'est Aoutan Dambouanza. J'ai 25 ans, en réalité je viens de finir avec celui-là. Je l'ai combattu avec toute ma force.
Ce type de sport est très populaire dans la partie nord du pays. Les principales règles de Dembe sont très strictes et obligatoires pour l'exécution. Les joueurs ont l'un de leurs poings enveloppé dans un bandage, tandis que l'autre poing reste libre. L'action se déroule dans un cercle rempli de sable. Si l'un des joueurs sort de ce cercle, il sera immédiatement disqualifié. Cela équivaut à une défaite. Amadou Bello est un fan de Dembe. Il était présent pour supporter son héros qui vient de gagner son match.
Je veux voir notre Jamous, celui que je supporte et qui est sorti victorieux. Moi, je n'aime pas que celui que je supporte soit battu. Son adversaire était venu se venger au nom de son père, mais Aoutan Dambouanza ne s'est pas laissé faire.
C'est juste le rythme de la cadence de Tam Tam Hausa qui a une signification pour les leaders. Aboubakar Adams Fountoua, analyste sportif de DTP, nous explique le rôle des Tam Tam durant le combat.
Les joueurs de tam-tam sont les faiseurs de dambé. Sans eux, il n'y aura pas de dambé. Ce bruit, cette foule, c'est ça le dambé. Ce sont eux qui obligent le lutteur à descendre dans le cercle de combat. Chaque morceau a une signification pour un guerrier particulier. Donc chaque lutteur là-bas a sa musique et la musique contient toutes sortes d'incantations.
Ce type de sport traditionnel fait face à une grande compétition depuis l'introduction du sport occidental au Nigeria. Dans le pays, existe même l'association de lutte traditionnelle basée dans l'état de Kogi au centre du pays. Son objectif principal est de rendre ce sport traditionnel obligatoire lors de tout festival national des sports. La boxe Dembe a une importance capitale selon Aboubakar Adam Sofuntoa, analyste sportif de Dembe.
La boxe Dembe est l'un des sports qui font la fierté des Haoussa ou des populations du Nord. Et Dembe n'est pas l'unique sport traditionnel que nous avons. Mais pour le moment, la boxe Dembe est le seul sport qui nous unit et qui fait notre honneur.
Ce type de sport traditionnel nigérien est étroitement lié aux coutumes traditionnelles. Traditionnellement au Nigeria, un homme qui veut épouser une belle femme doit passer par cette compétition. Seul l'homme le plus fort pouvait avoir le droit d'avoir une épouse.
Une grande vague de froid polaire s'est abattue sur une bonne partie des États-Unis. L'électricité est progressivement rétablie, mais des centaines de milliers de foyers sont toujours privés de courant dans des États comme le Texas. Les météorologues ont indiqué que plus de 100 millions d'Américains du Midwest sont concernés par des avis de tempêtes hivernales de gravité diverse. Eric Manirakiza a joint dans le Texas notre collègue Michel Joseph.
Pour passer quelques semaines, mais je n'étais pas du tout préparée à cela. Personne n'était préparé à cela, enfin. C'était le choc total, finalement, parce que personne ne s'attendait à cela. Enfin, la météo nous a avertis et on s'est dit, c'est pas possible. Est-ce qu'on entend vraiment ce qu'on entend? Et bon, quand c'est arrivé, c'était le choc.
L'électricité est progressivement rétablie, n'est-ce pas?
Oui, dans certaines régions, mais il y en a qui n'ont pas revu l'électricité. Pour nous, on a eu quelques cas de délestage, mais ce qui était encore plus grave, en fait, c'était l'eau. À cause du gel et du froid extrême, l'infrastructure n'a pas pu tenir et l'eau a gelé. Et donc, pas d'eau. Ça fait 5 jours maintenant pour nous.
Voudriez-vous nous décrire ce que vous vivez dans cette situation?
Ouf. Je crois que... Le pire, c'est que toutes les infrastructures ont été touchées, donc les magasins étaient fermés, donc les gens n'avaient pas de courant, les routes, impossible de prendre ces routes-là parce qu'elles étaient gelées, pleines de neige, les routes n'ont pas été nettoyées parce qu'ils n'ont pas les camions chasse-neige pour nettoyer les routes. Donc on était tous plus ou moins bloqués chez nous, sans courant, sans eau et dans un gel arctique, quoi. Aujourd'hui, c'est le 4e ou le 5e jour. Donc, mon fils est sorti plusieurs jours d'affilée pour chercher de l'eau. Et il n'a pas pu trouver d'eau. Hier, pas d'eau. Il a passé 4 heures à l'extérieur. Il a attendu pendant plusieurs heures dans des longues files d'attente devant Walmart. Je crois qu'il y avait Walmart qui était ouvert. Target, peut-être. Et à des heures très réduites. Non, c'est vraiment le choc total. L'État n'était pas prêt. Et je pense que les gens n'étaient pas prêts.
Et pendant la nuit, qu'est-ce qui se passe dans ces conditions, dans votre maison?
Durant ces heures où il y avait la panne, un froid, mais terrible à l'intérieur. Donc on s'était dit, on allait se mettre dans la pièce la plus éloignée des fenêtres. Et on allait tous être ensemble, en dessous de couvertures, etc. On a mis du plastique sous les portes et dans les crevasses. Mais bon, la première fois, on était dans le noir total. On n'était pas prêts. On n'avait pas tous ces équipements, les lanternes, etc. C'était quand même assez difficile. Il y avait quand même un de nos voisins. On a vu qu'il y avait une maison dans notre voisinage qui était allumée. On s'est dit, ah tiens, eux, c'est différent pour eux. Ils doivent avoir un groupe électrogène. Et c'est vrai, ils sont venus nous voir, ils sont venus frapper à nos portes et ils nous ont dit, écoutez, on sait que vous avez une panne, comme tout le monde, et on vous accueille. On a invité plusieurs de nos voisins à venir chez nous. Si vous avez besoin de venir, venez. En fait, ce sont les voisins qui s'entraident ici parce qu'il n'y a pas accès à quoi que ce soit d'aide.
C'était notre collègue Michel Joseph, jointe à Houston dans le Texas. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À la mise en onde, Lionel Gaïma, Michel Joseph, Georges Léonard Sagnon et Gisèle Morissin. À la présentation, Abdourahman Dia. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également.